Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nina. Bonjour Nina. Vous êtes architecte, mais je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, donc je suis Nina, je suis architecte à Bourg-en-Bresse. Je suis née dans la banlieue de Toulouse et puis j'ai fait ma petite enfance là-bas. Après, j'ai été en Ardèche et puis j'ai fait mes études à Saint-Étienne et puis je suis venue exercer ici dans l'Ain.
Nina, donc vous êtes architecte, est-ce que vous avez une passion qui est née dans l'enfance? Vous aimiez bien être dans votre maison? Comment ça s'est passé?
J'ai toujours effectivement voulu être architecte. Alors c'est peut-être aussi parce que mes parents ont toujours aimé rénover les maisons dans lesquelles on a été successivement. Donc est-ce que le fait de baigner dans les travaux, ça a donné envie de faire des travaux après? Peut-être.
Est-ce que ça a été facile à faire accepter au départ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti tout de suite?
Non, ça, j'étais déterminée, mais heureusement, parce que parfois, c'était un peu aller contre vents et marées.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Le métier d'architecte, c'est un peu abstrait, même pour moi à l'époque. Et je me rappelle très bien au lycée, ma professeure principale me disait que j'étais pas assez bonne en classe, pas assez bonne soit en maths, soit pas assez bonne dans d'autres matières. Et clairement, m'avait dit, tu seras jamais architecte. Et 3 ans d'affilée, jamais j'aurais pu accéder à ce rêve-là d'après elle, parce que c'était absolument impossible. Et puis, j'étais quand même déterminée, donc j'ai fait tout en fonction. Et même mon père, là, je me rappelle que quand on a fait les visites d'écoles d'architecture dans la région, au final, il m'a dit, mais en fait, si, ça te correspond peut-être, parce que c'est justement quelque chose de très équilibré, c'est ni forcément très 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 mathématique, ni complètement artiste. Toi qui es un peu poétesse, entre guillemets, c'est un peu l'entre les deux. C'est à la fois la technique, à la fois la création. C'est tout cet équilibre qui finalement me représente et que ouais, mes parents m'aient même dit ça, c'est que finalement, oui, c'était ça.
Et puis il y a eu un déclic.
Il y a un élément qui a déclenché effectivement cela.
Alors, parlez-moi, vous aviez quel âge ?
Je devais avoir 13-14 ans à peu près, et c'était lors d'un voyage scolaire.
Qui se passait où ?
À Berlin, en fait, on a été visiter le musée juif de Berlin, donc un musée qui retrace l'histoire de cet épisode concernant la déportation des juifs. Et à ce moment-là, oui, il y a eu révélation.
Racontez-moi.
En visitant le musée, il s'avère que, en tout cas dans mon souvenir, on a une mise en contexte avec effectivement la guerre, le pourquoi on en est arrivé là. Et puis à un moment donné, on traverse une très très longue passerelle et très étroite, en tout cas dans mon souvenir.
Dans quel espace cette passerelle se trouve ?
C'était dans un espace plein de vide. Il y avait une double ou triple hauteur sous plafond et puis on était une passerelle avec les murs étaient très très loin et surtout on était au-dessus d'un vide dans lequel il y avait au fond du vide des espèces de médaillons en bois ou en métal avec des visages et chaque visage représentait un juif mort par déportation.
Donc un espace assez vertigineux avec un grand vide. Et des présences muettes, comment vous l'expliquez ?
Exactement ça, c'était la symbolique de tous ces morts, du nombre astronomique de morts dans le cadre de cette guerre. Et effectivement, le grand vide peut habiter finalement, ou en tout cas habiter par l'angoisse, la peur, la mort, tout ce qui s'est passé durant cette période de l'histoire un peu chaotique.
Votre visite se prolonge ?
Oui, tout à fait. Elle se prolonge dans le sens où on prend un grand escalier et après on se retrouve sur la droite sur une toute petite pièce qui se révèle être en fait la symbolique, la représentation des fours dans lesquels les juifs étaient mis à l'époque. Et je me rappelle que dans les cours d'histoire, le professeur nous avait dit qu'ils étaient plutôt une vingtaine, une cinquantaine à être là-bas dedans, alors que là, cette pièce dans ce musée, on n'y allait que par petits groupes, de 3, 4 ou 5, je ne sais plus, mais par petits groupes. Et là, quand on rentre dans cette pièce, il y a des grands murs de béton brut, penché, penché, c'est-à-dire orienté, c'est-à-dire pas droit, avec une lumière zénitale tout en haut et rien d'autre. Juste ces murs et cette lumière en hauteur. Et j'ai jamais été autant effrayée par une pièce, par un endroit, par un bâtiment que à cet instant précis. Et je me suis dit, bah, si l'architecte, si le type, il arrive à faire ressentir cette angoisse, oui, cette peur, cette révélation et cette compréhension de la mort et de tout ce qui s'est passé avec notamment cette période de l'histoire concernant les Juifs, bah, je me suis dit, bah, moi, je serai architecte, mais j'évoquerai la joie, le bonheur et le bien vivre ensemble.
Si je comprends bien, parce que c'est une émotion, tout est en creux.
Oui, 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 bah tout à fait. Ce musée est rempli de vide. Les scénographes, à un moment donné, ils ne pensaient même pas mettre d'œuvres ou d'éléments liés à l'histoire des Juifs, parce que le bâtiment se suffisait en lui-même, tellement il expliquait bien l'histoire par juste le biais des murs et des éléments du bâtiment.
Et ça vous a donné vraiment l'impression de vouloir faire tout le contraire et de devenir architecte?
Oui, c'est ça, en fait. Ça m'a évoqué tout ce qui était possible de faire et qui semblait compliqué à exprimer, c'est-à-dire bah, effectivement la peur, l'angoisse. Donc je me suis dit, moi, je vais faire tout l'inverse, tout le contraire, c'est-à-dire habiter des endroits dans lesquels on sera bien, dans lesquels on sera heureux et dans lesquels on voudra venir vivre.
Donc c'est-à-dire que ça vous a donné votre colonne vertébrale, en fait?
Oui, c'est ça. Ça a été finalement un guide à partir de ce moment-là et jusque dans mes études, dans mes typologies de projets jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai.
Dans vos typologies de projets?
Oui, bah, par exemple, à Bourg-en-Bresse, dans l'agence où on exerce, on fait beaucoup notamment de particuliers. Et c'est vrai que, bah, de plus en plus depuis le Covid, et c'est vrai que c'est personnellement un sujet qui m'attrait beaucoup parce que c'est du logement et c'est le vivre dans sa maison. Ça a un côté vraiment... Bah, personnel et chaque projet est unique et on entre vraiment en conversation avec le ou les clients qui vont vivre et habiter cette partie de bâtiment, cette maison. Donc ça a vraiment encore effectivement une émotion quand même plutôt grande et c'est vrai que ça j'aime bien, oui.
Et donc là vous êtes dans cette personnalisation et vous peuplez cet univers.
Oui, oui, c'est vrai, les projets sur lesquels on travaille, notamment de logement, c'est pour habiter des endroits, habiter une maison, habiter des pièces avec des usages multiples et variés et surtout uniques aux clients. Et il y a toujours cette écoute. Dans le musée à Berlin, c'était l'écoute, si je puis dire, du silence et de l'absence. Alors que là, c'est l'écoute des présents, de ceux qui vont vivre et qui veulent continuer de vivre dans cette partie de bâtiment. Et c'est comment répondre à leurs besoins en mieux aménageant, mieux concevoir et puis peut-être en faisant des extensions ou des choses qui correspondent à leur projet, mais toujours dans le but d'être heureux chez soi. C'est ça.
Donc cette mise en perspective, ça vous a donné aussi une certaine solidité dans vos convictions?
Oui, c'est vrai que j'ai toujours été, j'ai toujours su ce que je voulais faire et ne pas faire. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, je savais que je voulais faire architecte. Donc la direction était facilement, en tout cas en prise de décision, ça a été facile. Après, dans les écoles d'architecture, pareil, les mémoires ou les éléments de dernière année ou de choses comme ça ont toujours été dirigés, alors en d'autres termes, mais toujours sur cette même perspective et effectivement mise en abîme d'écoute et puis de mieux vivre et de rendre le bâtiment plus pérenne pour la suite, pour l'avenir. Et effectivement, dans tous les projets, c'est quelque chose qui guide, oui.
Oui, parce que vous, votre éthique, c'est vivre, vivre au mieux, vivre longtemps. Et vous avez donc cette vue, hein, qui vous est peut-être venue de cet événement initial. Est-ce que des fois, vous êtes en conflit avec des clients qui voient la maison différemment et que là, vous voyez des choses qui peuvent se profiler, donc pas dans le bon sens?
Oui, alors ça arrive que parfois les clients arrivent avec des choses préfaites, préconçues, pré-mâchées. Et là, parfois ça marche, ça oriente, mais parfois ça marche pas du tout. Et là, alors sans rentrer en conflit, mais effectivement, il y a ce moment délicat où on leur dit « bah non, ça va pas du tout ce que vous voulez ». Et en fait, il faut leur prouver par A plus B, souvent avec des dessins, parfois avec plein de scénarios, qu'il peut y avoir beaucoup d'autres possibilités, mais pas la leur.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'architecture, c'est pas que des plans.
Non, pas du tout. L'architecture, pour moi, c'est surtout du relationnel, en fait. D'abord, beaucoup d'écoute des clients, parce qu'il faut qu'ils nous racontent comment ils vivent. Alors, dans une maison, mais ça marche pour plein d'autres projets, que ce soit les écoles, des bureaux ou choses comme ça. Quels sont les usages? Donc, il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension à avoir. Et après, c'est beaucoup d'imagination pour retranscrire à travers, donc, des murs, des cloisons, des lumières, des vues, des types de pièces, pour que les gens se sentent bien, bien dans ces pièces-là.
Alors, est-ce qu'il vous arrive de vouloir vérifier quelques années après, vous êtes encore très très jeune, si vos convictions, si ça a donné des résultats qui vont dans le sens que vous souhaitiez ?
Jusque-là, oui, les clients sont vraiment plutôt contents des endroits où ils habitent. Alors, dans le cadre de maisons notamment, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller, entre guillemets, vérifier, de toquer aux portes ou de passer un petit coup de fil, alors comment ça se passe chez vous. Et après, non, sur d'autres projets, que ce soit des bureaux ou des écoles, non, on n'a toujours eu que des bons échos, donc ma foi, tant mieux.
Est-ce que, parce que le départ, c'est aussi une vision implacable de l'inhumanité, est-ce qu'il vous arrive aussi de vous tromper, d'être en contradiction et finalement que le client puisse avoir raison?
Bien sûr, personne n'est parfait, et les erreurs sont humaines, et justement, c'est effectivement dans ce contexte-là, rendre humain, et donc du coup, bah, en fait, avoir des conversations, que ce soit avec les clients ou avec les artisans. Le chantier, malgré tout, ça dure longtemps, et comme je dis toujours à mes clients, on est content quand le chantier commence et puis de voir tout le monde arriver et puis débarquer et faire les travaux. Puis on est surtout content quand ça s'arrête et qu'on retourne chez soi avec les clés, qu'il n'y ait plus personne sur le site.
Oui, vous venez de mentionner aussi une chose qui est importante, c'est que le chantier, ce n'est pas que le client, c'est aussi tout un contexte avec des artisans également qui sont là donc pour le faire vivre.
C'est ça, en fait, le bâtiment, c'est surtout, comme on dit, une grande histoire de famille. Ça commence en amont avec la conception, avec l'architecte, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle parfois, les ingénieurs, les dessinateurs, les clients et puis le service instructeur quand il y a des services d'urbanisme qui sont requis, parfois l'architecte des bâtiments de France. Il y a énormément de social et de conversations à avoir avec tout un tas de gens avant de pouvoir finaliser des plans. Et une fois que ça c'est fait, bah, ma foi, faut faire rendre concret, rendre réel ce qui est dessiné. Donc c'est aussi ça qui m'a toujours plu, c'est que une idée qui germe dans une petite tête peut vraiment devenir vraie deux ans plus tard ou plus longtemps. Mais et ça c'est fait par tout un tas d'artisans qui mènent la barque, qui construisent, qui bâtissent réellement un art de vivre qui va être particulier pour le client dans le cadre d'une maison ou dans le cadre d'une école de bureau d'autres. Mais en tout cas, oui, c'est une grande histoire de sociabilité du début jusqu'à la fin.
Avec cette conviction qui vous vient de très loin et qui vous permet de tenir le bateau, la barque.
C'est ça, oui, l'idée d'être humain, de rendre humain et puis de faire vivre comme il faut tous ces gens autour de nous et surtout pour que le bâtiment puisse vivre sa vie à l'échelle du temps du client et puis aussi et surtout dans l'idée d'une longévité et d'une évolution possible pour ce bâtiment parce qu'on ne conçoit pas pour 5-10 ans, on conçoit, j'espère bien, des bâtiments pour 50 ou 100 ans, évidemment.
Et pour les générations futures, peut-être.
Exactement, tout à fait. Tout doit être évolutif.
Ben, amis auditeurs, j'espère que vous avez bien habité cette émission et je vous dis à bientôt. À bientôt, Nina, en tous les cas.
Merci beaucoup. Merci.